Partie 7. Reconnaître la tromperie. Ces gentillesses d'esprit, ces galanteries ingénieuses, à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. On peut comprendre que Scapin, l'un des personnages les plus malicieux de Molière, s'offusque du qualificatif apposé à son habileté rhétorique. Et pourtant, égarer ses interlocuteurs, duper ses auditeurs, utiliser le langage pour tromper et enjôler, ce sont bien là des fourberies. Telle est l'avant-dernière étape de notre voyage, la plus ténébreuse d'entre toutes. Préparons-nous, car nous entrons dans le domaine des raisonnements manipulatoires et des arguments erronés. L'art trouble de la déloyauté. Il s'agit bien sûr d'une question essentielle. Il existe, nous le verrons, des argumentations si insidieuses qu'elles en déforment la réalité, nous la donnent à voir sous des abords trompeurs et mensongers. Si nous ne sommes pas capables de les repérer, ces procédés risquent de pervertir notre pensée, nous pousser à accepter, sans discussion, des propositions que nous aurions dû considérer avec plus de circonspection, éventuellement même qui sont contraires à notre intérêt. Bref, ce que les arguments déloyaux menacent, c'est bien la liberté de nous forger un jugement éclairé. Nous commencerons par étudier en détail les principaux arguments fallacieux auxquels nous risquons d'être confrontés, avant d'envisager un outil anodin en apparence, mais délétère par ses conséquences, l'utilisation de concepts mobilisateurs. Chapitre 1. L'art de malmener la logique. Déloyauté. Le terme est aussi repoussant qu'imprécis. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous faut donc commencer par en cerner les contours. Comprendre à quel moment et pour quelles raisons les raisonnements deviennent frauduleux. Nous devrons pour cela nous pencher brièvement sur les grands principes de la logique. C'est elle qui, malmenée, nous entraîne irrémédiablement vers la sophistique. 1. Sophisme et paralogisme. En langue française, les arguments fallacieux sont désignés, la plupart du temps, sous le terme de sophisme. Il s'agit d'une référence à la Grèce antique. On appelait sophistes les professeurs qui faisaient commerce de leur sagesse. Ils enseignaient notamment l'éloquence et prétendaient être capables de convaincre n'importe qui de n'importe quoi sans le moindre égard pour la vérité. Telle est du moins la vision qui nous a été transmise par Socrate et ses héritiers qui en étaient les adversaires directs. Depuis, la recherche historique a mis en évidence une réalité plus contrastée. Peu importe pour nous, en rhétorique, le terme est resté. On trouve parfois également le mot « paralogisme », mais sa signification est légèrement différente. Il renvoie aux erreurs involontaire de raisonnement que chacun est susceptible de commettre au quotidien. Entre ces deux dénominations, il y a donc une différence d'intention. Alors que le paralogisme se trompe, le sophisme trompe. Quant à la langue anglaise, elle utilise un terme beaucoup plus neutre historiquement, les logical fallacies. La littérature sur cette question est particulièrement abondante. De nombreux ouvrages ont cherché à répertorier, classifier et analyser les principaux sophismes. On trouve par ailleurs sur Internet pléthore d'infographies et de vidéos prétendant donner une liste vulgarisée des arguments fallacieux. Hélas, du point de vue de la rhétorique mise en pratique, ces propositions tendent souvent à se révéler trop rigides. Plusieurs procédés argumentatifs y sont disqualifiés en bloc comme sophistiques, alors même qu'il existe des situations dans lesquelles il nous semble parfaitement justifié d'y avoir recours. Contentons-nous de prendre deux exemples. Dans toutes ces classifications, l'objection ad personam est considérée comme un péché capital. Le fait de discréditer un interlocuteur afin de ne pas avoir à réfuter ses arguments constituerait une faute impardonnable, plongeant son auteur dans l'indignité pour l'éternité. Il s'agit, nous en convenons, d'un procédé très agressif. Pourtant, nous l'avons vu, en certaines circonstances, l'objection ad personam peut se révéler pertinente, jamais décisive, il est vrai, mais recevable néanmoins. Il en va de même pour l'utilisation des émotions. Pour cette littérature, chercher à émouvoir son auditoire serait profondément déloyal. Or, de notre point de vue, il s'agit au contraire d'une dimension inhérente à la rhétorique, le pathos. Certes, jouer sur les affects peut parfois se révéler manipulatoire. Mais nous avons montré que l'utilisation des émotions pouvait également se révéler légitime et parfois même nécessaire pour amener les auditeurs à prendre conscience d'une réalité qui leur échappe. Dans ce livre, nous envisagerons les sophismes au sens le plus restrictif du terme, comme des procédés argumentatifs violant une ou plusieurs règles de la logique. Habilement utilisés, ils permettent de conférer l'apparence de la rigueur à des raisonnements fautifs ou corrompus. En tant qu'auditrices ou auditeurs, nous devons absolument apprendre à les repérer, sans quoi notre forteresse devient poreuse. À tout moment, nous risquons de laisser notre adhésion se faire capturer par une argumentation frauduleuse. Commençons par ce que, jusqu'à présent, nous étions parvenus à éviter, les fondements de ce que l'on nomme aujourd'hui la logique informelle, c'est-à-dire celle avec laquelle nous raisonnons au quotidien. Il s'agit d'un passage traditionnel et, avouons-le, rébarbatif des traités de rhétorique. Il est toutefois nécessaire de s'y confronter si l'on désire comprendre en quoi les sophismes constituent bien une violation des règles les plus élémentaires de l'argumentation. Pas d'inquiétude, nous ferons au plus court. Au cœur de la logique informelle se trouve une interrogation à la fois élémentaire et passionnante. Comment faisons-nous pour construire, jour après jour, notre pensée? Par quelles opérations de l'esprit parvenons-nous à élaborer des conclusions nouvelles à partir de connaissances anciennes? La réponse est simple, nous déployons des raisonnements. Ce sont eux qui nous permettent de forger des savoirs et des jugements bien établis, en lesquels nous pouvons avoir confiance, au moins dans une certaine mesure. À cette fin, nous pouvons suivre deux voies, l'induction et la déduction. 2. Les raisonnements inductifs, exemples et montées en généralité. Les raisonnements inductifs consistent à bâtir des conclusions générales à partir d'observations particulières. Nous partons de faits, en étudions la régularité, prenons en compte les probabilités et en dégageons un enseignement. Toute la difficulté consiste, bien sûr, à savoir dans quelle mesure notre montée en généralité sera solide et fondée. Étude de cas. Mon fils de 16 ans m'annonce un matin qu'il désire devenir joueur de basket professionnel. Problème, il mesure 1 m72 et ne grandit plus depuis quelques mois. De toute évidence, la génétique le disqualifie. Mais comment vais-je l'en convaincre ? Je ne peux me contenter de lui asséner « Enfin, tu es trop petit pour devenir basketteur ». Crise d'adolescence oblige, cela ne ferait que l'encourager. Autre option, à peine meilleure, tu te souviens de ton oncle Joseph qui jouait en club ? Il mesure plus de 2 mètres, tu es trop petit. Mon fils me rétorquerait que le monde ne se limite pas à Joseph et il serait difficile de lui donner tort. Troisième possibilité, mais tu as vu les matchs de la NBA à la télévision ? Tous les joueurs sont immenses. Tu es trop petit. Voilà qui est soudain plus impactant. Une simple requête sur mon smartphone me permettrait de porter le coup de grâce. La taille moyenne des joueurs de la NBA est de 1,99 m. Tu peux jouer au basket, mais pas devenir basketteur. Si gisent les espoirs de mon fils. Décryptage. Ici, nous nous sommes appuyés sur un ensemble d'observations de plus en plus large jusqu'à ce que notre argument apparaisse difficilement réfutable. Il est toujours possible de le rejeter, bien sûr. L'adolescent en question pourrait choisir de répondre « Eh bien, je serai l'exception qui confirmera la règle ». Il serait dans son droit et l'avenir pourrait même lui donner raison. Lorsque nous déployons un raisonnement inductif, nous ne visons pas à dégager la vérité, mais, comme pour toute argumentation, le probable et le préférable. Plus le corpus de faits considérés sera grand, plus la montée en généralité sera justifiée et plus notre conclusion sera forte et établie. Nous retrouvons ici des observations que nous avions déjà rencontrées au moment d'examiner l'argumentation par l'exemple, qui, la plupart du temps, n'est rien d'autre qu'un raisonnement inductif fautif. 3. Les raisonnements déductifs, syllogismes et antimèmes. Les raisonnements déductifs consistent à mettre en relation des propositions anciennes, les prémices, pour aboutir à une proposition nouvelle, la conclusion. Lorsque les prémices sont établies avec rigueur, énoncées explicitement et liées entre elles de manière méthodique, la conclusion peut être acceptée elle-même comme rigoureuse. On parle alors d'un syllogisme. N'ayons pas peur du cliché et donnons l'exemple le plus iconique. Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Au quotidien toutefois, il est très rare que nous utilisions des syllogismes complets. Dans la plupart de nos raisonnements, une partie des prémices ne sont pas exprimées. Elles restent dans l'ombre. Ces syllogismes tronqués portent un nom particulier, on les appelle des antimèmes. Bien souvent, si nous omettons une partie des prémices, c'est qu'elle nous semble aller de soi et n'avoir donc pas besoin d'être rappelée. Elles appartiennent au savoir partagé, ce que nous et nos interlocuteurs avons déjà en commun. Prenons ce dialogue fictif. Alors, tu viens plus aux soirées ? Non, en ce moment, j'ai du travail. Justement, viens, ça te détendra. Il pivote en réalité sur 2 antimèmes opposés. D'une part, je travaille mal quand je me couche tard, or, ces soirées finissent tard, et en ce moment, j'ai du travail, donc je ne viens plus aux soirées. D'autre part, on travaille mieux quand on est détendu, or, ces soirées permettent de se détendre, et justement, tu as du travail. Donc, tu devrais venir aux soirées. On voit bien cependant qu'il est inutile de reconstruire toute la chaîne logique. L'énoncé d'une des prémices suffit pour comprendre l'intégralité du raisonnement. Il arrive aussi que les antimèmes soient utilisés de manière plus stratégique. Nous choisissons volontairement de laisser une des prémices dans l'ombre parce que nous craignons qu'elle nous attire de vives objections, voire disqualifie notre propos. Imaginons que nous voulions médire sur un artiste que nous avons pris en grippe. C'est un chanteur raté. En 20 ans de carrière, il n'a pas fait un seul tube. Ainsi exprimé, l'argument ne manque pas d'un certain panache et pourrait s'imposer avec la force de l'évidence. Il repose pourtant sur une prémisse hautement contestable. La valeur d'un musicien se mesure à ses ventes. Qu'un seul de nos interlocuteurs ait la présence d'esprit de la mettre en lumière et nous serons plongés dans de grandes difficultés. De nombreux proverbes pivotent sur des prémices cachées qui, révélées, seraient intenables. Par exemple, « quand on veut, on peut » est un mantra qui semble avoir pour lui un certain bon sens. Il implique toutefois de présupposer que tout ce qui nous arrive ne dépend que de nous, un postulat pour le moins audacieux. De la même manière, les préjugés sexistes ou racistes, qui ne pourraient être exprimés sans couvrir de honte leurs auteurs, se réfugient souvent dans des prémisses implicites. Il en va ainsi de phrases comme « Il est juif, mais très généreux. Elle est belle, mais très compétente. » Elles ne sont des compliments qu'en apparence. S'y dissimulent en effet des présupposés nauséabonds, les juifs sont généralement pingres, les belles femmes sont généralement idiotes. Là se trouve toute la force des antimèmes. Ils permettent de déguiser la bassesse et la faiblesse sous les apparences trompeuses de l'évidence ou de la bienveillance. Enfin, il est également possible de ne pas tirer jusqu'au bout le fil de la déduction, afin de laisser nos auditeurs parvenir d'eux-mêmes à la conclusion. Imaginons que nous négocions la prolongation d'un contrat de travail avec un employeur. Nous collaborons depuis longtemps déjà, et j'aimerais beaucoup que cela se poursuive. Il nous reste simplement à trouver un accord pour mon augmentation de salaire. Et vous savez, sur le marché, mon profil est très recherché en ce moment. Ici, toutes les prémices ont été explicitées. Nous avons simplement pris garde d'omettre leurs implacables conséquences. Si vous ne me faites pas une proposition généreuse, j'irai chercher du travail ailleurs. Bien sûr, notre interlocuteur aura parfaitement compris. Mais entre laisser planer une menace et menacer ouvertement, il y a un écart de taille, celui qui sépare la tension du conflit. Au quotidien, ce type d'antimème se révèle précieux. Il permet de faire passer un message sans envenimer outre mesure la situation. Les raisonnements déductifs sont ainsi à la source d'une grande partie des argumentations que nous manipulons chaque jour, souvent sans nous en rendre compte. Nous pourrions alors nous demander pourquoi les aborder aussi tardivement. N'aurait-on pas dû commencer par là? Bien au contraire. C'est justement parce que les antimèmes sont omniprésents dans nos discours qu'il est superflu d'apprendre à les élaborer. Nous y parvenons déjà intuitivement. Cela ne signifie pas, bien sûr, que nous soyons capables de le faire de manière rigoureuse, dans le plein respect de toutes les règles de construction. Mais cette question nous emmènerait bien au-delà de notre sujet. Elle impliquerait, en effet, de nous interroger non plus seulement sur l'efficacité des arguments, ni même sur leur rigueur, mais bien sur leur validité. nous quitterions alors le territoire de la rhétorique pour entrer sur celui de la logique et de la dialectique. Or, aussi passionnantes que soient ces disciplines, elles n'en sont pas moins difficilement applicables en pratique. Nos discussions quotidiennes comportent, admettons-le, une part irréductible d'approximations, d'incartades, de bazars. Si nous sermonnions nos interlocuteurs à chaque fois qu'ils omettent d'énoncer une prémisse ou tirent une conclusion sans avoir explicité le lien déductif, il est probable que nous n'aurions bientôt plus aucun interlocuteur du tout. Aussi fertiles que soient ces interrogations, il va donc falloir les laisser de côté. 4. Les infractions à la logique informelle. Qu'est-ce alors qu'un sophisme ? C'est un raisonnement qui enfreint habilement l'une des normes de l'induction ou de la déduction. Les conclusions qu'il tire ne sont pas seulement irrecevables, elles sont trompeuses. Elles semblent correctes alors qu'elles ne le sont pas. Passons donc directement à l'étude des procédés qui transgressent les règles de la logique. Dans le cas particulier des syllogismes, la question est assez rapidement réglée. Il est possible, bien sûr, d'en tordre la construction. Par exemple, Socrate boit du lait, or les chats boivent du lait, donc Socrate est un chat. Plus pernicieux, tout ce qui est rare est cher, or une Ferrari pas chère, c'est rare, donc une Ferrari pas chère, c'est cher. Voire franchement vicieux, dans l'emmental, il y a des trous, or plus il y a d'emmental, plus il y a de trous, et plus il y a de trous, moins il y a d'emmental, donc plus il y a d'emmental, moins il y a d'emmental. En l'occurrence, le premier de ces syllogismes contient une erreur de raisonnement grossière. L'individu Socrate n'est pas compris dans l'ensemble chat. Le deuxième repose sur une prémisse erronée. Tout ce qui est rare n'est pas cher. Si l'auteur de ces lignes essayait de peindre un tableau, par exemple, ce serait une œuvre très rare. Mais il y a peu de chances qu'elle se vende cher. Quant au troisième syllogisme, il pivote sur une prémisse incomplète. Il aurait fallu préciser « plus il y a de trous dans un même volume d'emmental, moins il y a d'emmental ». Toutefois, le procédé reste assez peu susceptible de nous duper. Comme toutes les prémisses sont exposées, nous sommes généralement à même de constater qu'elles aboutissent à une conclusion absurde. Nous ne savons pas nécessairement expliquer pourquoi, mais nous voyons bien que quelque chose ne va pas. Dans le cas des antinomies et des raisonnements inductifs, en revanche, qui laissent une partie des prémisses ou des preuves dans l'ombre, les procédés peuvent se révéler plus pernicieux. Il va donc falloir les étudier pour apprendre à les repérer.